voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Après avoir travaillé en bureau d'études, Didier se retrouve aujourd'hui à pratiquer l'Ayurveda. L'Ayurveda lui permet de rassembler tout ce qui forme une unité, de la même manière que chaque personne sur Terre n'est qu'un petit morceau d'un ensemble intelligent et logique dont nous faisons tous partie. Découvrons avec Didier les grands principes de l'Ayurveda. L'émission en radio s'appelle La Voix du Kaizen. L'idée, c'est de donner la parole à des thérapeutes, faire un peu le panel des différentes thérapies alternatives. Donc elles sont nombreuses aujourd'hui en France. Et cette émission a pour but de permettre d'y voir un petit peu plus clair en matière de thérapie et voir quels sont les outils qui existent dans le panel des médecines ou des thérapies alternatives. Donc avec moi, Didier.
Alors je m'appelle Didier Berly, je suis à Toulouse depuis une quinzaine d'années. Et j'ai découvert l'Ayurveda il y a un moment, et c'était une rencontre, une évidence de venir à l'Ayurveda. Dans un premier temps par curiosité, et très rapidement c'est devenu un métier. Voilà, c'est sans que ça ait été réfléchi forcément, c'est venu vraiment très naturellement.
Donc l'Ayurveda, c'est un terme qui est de plus en plus populaire, hein. On voit souvent dans les magazines, on parle de l'Ayurveda de plus en plus, mais toi, quelle est ta définition? Qu'est-ce que c'est que l'Ayurveda?
L'Ayurveda, ça veut dire la science de la vie. C'est une compréhension de la vie, donc la vie de l'être humain, mais ça va bien au-delà de ça. C'est une compréhension de comment la nature s'articule au niveau des cinq éléments qui sont en mouvement, indépendamment l'un de l'autre, mais aussi en relation les uns avec les autres. Donc ces cinq éléments, ils sont en nous, en chacun de nous, mais chaque individu est la même représentation que l'énergie dans le cosmos global. Donc ça demande pas mal d'humilité au départ pour comprendre que l'être humain n'est pas du tout au centre de l'histoire et que tout s'articule comme une immense machine indéfinie par la conscience humaine. Mais qui fonctionne en tout cas, qui existait avant nous et qui existera après nous. C'est une loi naturelle. Et l'Ayurveda, c'est la science de la vie, c'est la compréhension de cette loi naturelle. Et ce qui permet plus concrètement, parce que là c'est un peu abstrait, ce qui permet plus concrètement de constamment chercher à rester en harmonie avec cette loi naturelle. Et les conséquences de la séparation entre nous et cette harmonie naturelle, ça va être la maladie. Donc, on ne s'occupe pas des maladies en Ayurveda, ou en tout cas pas dans un premier temps. On va chercher à comprendre fondamentalement, et ça peut prendre toute la vie, comment fonctionne cette nature, quelle est notre nature individuelle, et comment harmoniser tout ça. Voilà.
Est-ce que tu peux me parler de l'origine de l'Ayurveda, l'histoire de l'Ayurveda? Donc, je sais que ça vient d'Inde, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de... peut-être de la place de l'Ayurveda dans la tradition indienne, et ce qu'on connaît des textes anciens?
Les premiers signes de présence d'Ayurveda ont 5000 ans. Et au tout début, les techniques utilisées, c'était pas ce qu'on fait maintenant, c'était les mantras, donc les chants avec des vibrations particulières, bija mantra et mantra en général, et les pierres, voilà, uniquement. Donc il y a 5000 ans, c'était que ça, il y avait une vraie connexion à la nature, et très naturel, j'imagine, dans la société à ce moment-là. Et donc, l'Ayurveda est né de ça. Et ça a constamment évolué. Et l'Ayurveda qu'on connaît et qu'on pratique aujourd'hui, on va dire qu'elle a plutôt 3000 ans, et c'est des textes qui ont été écrits il y a à peu près 3000 ans, 2500, 3000 ans. Et là, on est un peu plus dans une logique, je ne vais pas dire médicale, mais en tout cas un peu plus proche de l'homme directement. Voilà, c'est un peu plus pratique, c'est un peu plus... appliqué. Voilà.
Est-ce qu'on peut parler de médecine quand on parle d'Ayurveda?
Bien sûr, sauf que le côté médical de l'Ayurveda, c'est 10% de l'Ayurveda. Mais on parle de médecine, oui. Si vous allez en Inde, dans des cliniques ayurvédiques, vous allez rencontrer des médecins qui ont étudié la médecine ayurvédique. Et ils vont soigner des maladies. Mais ça, c'est vu de l'extérieur, c'est vraiment le point de vue occidental. Eux, ils vont pas chercher à faire ça, ils vont chercher à rétablir l'harmonie de la nature dans un individu, avec une logique médicale. Voilà. Et de plus en plus, si on parle vraiment d'Ayurveda moderne, vraiment, je parle du 21e siècle, il y a de plus en plus de ponts entre l'allopathie et l'Ayurveda. Voilà.
Ça m'intéresse, cette notion de pont entre l'allopathie et l'Ayurveda, qui est plutôt une médecine holistique.
Oui. Quand il y a le feu, il faut appeler les pompiers. Voilà. Et quand on a une grave maladie, l'Ayurveda va prendre du temps. L'Ayurveda va l'expliquer. En même temps, un cancer, même l'allopathie ne soigne pas les cancers. Donc l'Ayurveda, ce n'est pas miraculeux au niveau santé, mais rien n'est miraculeux. La vie est miraculeuse. La maladie, on dit en Ayurveda que la maladie, et d'ailleurs littéralement en français, le maladie, la maladie est une manifestation du vivant, une manifestation de la vie. Donc se battre contre la maladie, c'est un non-sens. On accompagne la maladie, on écoute ce que le mal nous a dit. Et la guérison holistique, c'est vraiment un accueil complet. Donc je parlais d'humilité tout à l'heure. Au niveau individuel, on peut à nouveau parler d'humilité. Et quand on est touché par une maladie, c'est une occasion, c'est la meilleure occasion possible pour remettre en question qui on est et comprendre que si elle est là, c'est pas par hasard. Et la maladie, c'est la manifestation de la vie qui nous dit à un moment donné qu'on s'est écarté de notre nature profonde.
Mais donc la maladie, peut-être qu'on peut aussi la catégoriser. Il y a plusieurs types, plusieurs formes de maladies.
Pour l'Ayurveda, en général, oui, il y a plusieurs sortes de maladies, mais on est déjà dans une déclinaison d'une logique globale. Et la logique globale, c'est à nouveau qu'on s'est écarté de notre nature. Je reviens un petit peu sur l'Ayurveda au départ. La logique de l'Ayurveda, c'est de comprendre quelle est notre nature individuelle. On a tous, je parlais des cinq éléments tout à l'heure, on a tous les cinq éléments qui fonctionnent en nous.
Tu peux les citer, ces cinq éléments ?
Oui, bien sûr. Bon, évidemment, aujourd'hui, je vais donner leur traduction en français. C'est intéressant de comprendre que le sens de chacun va bien au-delà des mots qu'on connaît en français. C'est juste un abus de langage pour pouvoir communiquer entre nous. Le premier, c'est l'espace. L'espace, c'est sans forme, sans poids, sans matière. C'est juste le fait qu'il y ait la place de mettre quelque chose dedans. Donc, si on parle du Big Bang, avant, il n'y avait pas l'espace. Et donc, il y a eu un espace qui a été créé, et la matière a pu se manifester à l'intérieur de cet espace. Bon, je le dis une fois en sanskrit, c'est Akasha. Le deuxième, c'est Vayu, c'est l'air. Alors l'air, ça parle du gaz, donc là, on est un peu dans la matière, mais par exemple, dans un verre d'eau, on remplit un verre d'eau, il n'y a que de l'eau. Mais si on le fait bouger, il est toujours plein d'eau, mais on rajoute l'élément Vayu, on rajoute l'élément air, puisque tout ce qui est mouvement, c'est Vayu qui est le mouvement. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que quand on parle de l'air, c'est pas uniquement le gaz, c'est aussi le fait qu'il y a un mouvement. Donc un mouvement d'eau, c'est Vayu aussi, c'est déjà l'air qui est dedans. Quand on a des problèmes de circulation du sang, qui circulent mal, c'est un problème de Vayu, c'est pas un problème du côté liquide du sang. Le troisième, c'est Agni, c'est le feu. C'est lui qui permet de transformer, c'est lui qui digère au niveau du corps physique. C'est lui qui maintient notre corps à une température de 37 degrés, quelle que soit la température extérieure. C'est Vayu qui attise le feu. Donc il y a une relation entre chaque. Le quatrième, c'est Jala, c'est l'eau. Donc là, c'est tous les liquides. Et le cinquième, c'est Prithivi, c'est la terre. Donc c'est tous les solides. Voilà, mais qui sont... Tout est en interaction. Au niveau du mouvement, au niveau de... Je donne un exemple, je ne vais pas tout détailler, mais... Au niveau chimique, on sait très bien que dans un atome, il y a du mouvement constamment. Il y a du vide, énormément de vide. On voit les électrons qui bougent, mais l'électron représente une infinité. C'est tout petit par rapport au volume qu'il occupe dans son mouvement. Donc ça veut bien dire qu'il y a Akasha à l'intérieur, il y a l'espace. Ça veut bien dire qu'il y a Vayu, qu'il y a du mouvement. Et puisqu'il n'est pas à 0 Kelvin, on est toujours à une température comprise entre moins 100 degrés et plus 100 degrés, il y a toujours Agni. Donc, dans chaque molécule, on a les cinq éléments, finalement. Voilà. Donc, les électrons bougent, donc c'est bien qu'il y a l'élément Vayu dedans.
Et cette notion de cinq éléments, comment est-ce que tu vas en tenir compte dans un soin ayurvédique ?
Alors, comme je disais tout à l'heure, on a tous les cinq éléments, mais on les a pas tous dans les mêmes proportions. Donc il y a des gens qui vont avoir je donne un exemple, qui vont avoir une structure où Agni va être un peu majoritaire. C'est des gens qui vont avoir souvent chaud. Et on voit souvent l'hiver des gens qui sont en t-shirt alors qu'il neige. Bon, c'est des gens qui ont le feu plutôt dominant dans leur constitution. Il y a des gens qui sont plutôt très grands, très forts, charpentés, qui n'ont jamais vraiment faim. Il y a des gens qui sont plutôt petits, fins, élancés, et qui vont aimer le mouvement, le changement, qui vont avoir une forte capacité d'adaptation. Donc c'est des gens qui vont avoir l'élément plutôt air dominant. Donc ça, c'est au niveau de la structure fondamentale de notre métabolisme, de notre physique, etc. Donc quand je rencontre une personne, très rapidement, quand on a un peu l'habitude, on peut voir un peu comment s'organisent les cinq éléments et est-ce qu'il y en a un qui domine, a priori. Dans un soin ayurvédique, alors là, si on est spécifique pour les massages, même s'il y a à nouveau les massages, c'est 10% des soins ayurvédiques. Mais dans un massage, on va voir s'il y a un élément qui est dominant, on va voir s'il y a un élément qui est en excès. Par exemple, si on a, je sais pas, on a pris un coup de soleil, c'est un excès de feu. Donc on n'est plus en équilibre, on a déséquilibré avec un excès de feu. Quelqu'un qui a un psoriasis, par exemple. Là, je parle des problèmes de peau parce que c'est ce qu'on voit en premier. Quelqu'un qui est en surpoids, c'est un problème de. Il y a un excès d'eau ou de terre. Donc, sachant ça, on parle de choses simples. Là, ça paraît compliqué si on n'a jamais entendu parler des cinq éléments, mais tout ça, c'est des choses assez intuitives. Donc, on va voir un peu quel élément. Quelqu'un qui arrive, par exemple, qui est hyper agité, qui a des problèmes de sommeil, probablement il y a un excès de mouvement, donc de vayu. Donc, on va adapter le soin en ajoutant les éléments qui vont compenser. Donc, trop de vayu, trop de mouvement, c'est trop de légèreté, donc on va rajouter du lourd. Trop de vayu, ça va créer de la sécheresse, donc on va rajouter quelque chose d'onctueux. Donc un massage lent avec de l'huile et chaud. Voilà, on va compenser.
Donc, comme je l'entends, en tout cas, ce que je comprends, c'est qu'il faut, à travers ces cinq éléments, enfin, l'idée, c'est à travers ces cinq éléments de retrouver un équilibre.
Exactement. Même augmente même et les opposés se compensent. Si on a de la chaleur, trop de chaleur, on met du froid. Si on a trop de froid, on met de la chaleur. Mais on le fait automatiquement. Quand on a faim, on mange. Quand on a froid, on met un pull. On le fait automatiquement. L'Ayurveda propose une grille un peu plus subtile, un peu plus fine, un peu plus poussée. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'en Ayurveda, il y a énormément de théories par rapport au massage, par rapport à la santé, par rapport à l'alimentation. Et c'est passionnant de comprendre ça. Mais ça reste de la théorie. Chaque personne est unique. Et un enfant sait exactement de quoi il a besoin. Il sait quand il doit manger, il sait ce qu'il doit manger. Et nous, on a encore cette capacité de discernement au fond de nous, intuitive, profonde, naturelle, instinctive. Mais par contre, pourquoi on s'en écarte à un moment donné? Parce qu'on a des conditionnements, parce qu'on a une histoire de vie, parce qu'on a des croyances, parce qu'on a des. C'est le mental qui s'empare un peu de ça. Donc, l'Ayurveda, si on parle du côté physique uniquement, là, effectivement, on tombe dans le piège de l'allopathie, même s'il y a une globalisation des problèmes du corps. L'Ayurveda va plus loin que ça. On voit vraiment les choses en couleur par rapport à la télé en noir et blanc, si je veux prendre cette image. Et on va voir à quel point le domaine énergétique est lié à ça. Et entre le corps et l'esprit, il y a toute une énergie qui circule. Je fais une petite parenthèse peut-être intéressante avec le yoga, c'est que le yoga, on travaille dans la matière en faisant bouger des énergies subtiles, par les souffles par exemple, et par le mental, par des mentalisations, des méditations. L'Ayurveda, on a cette même logique avec des outils différents. C'est que avoir une hygiène de vie spirituelle et psychologique saine nous permettra d'être toujours en équilibre au niveau des cinq éléments et de notre corps physique. Voilà, jusqu'à un certain moment. Notre corps est voué à mourir. C'est pour ça qu'on peut combattre une maladie, combattre la mort, c'est un non-sens. C'est qu'on est dans une ignorance totale. Donc, l'accueil, l'Ayurveda propose une vision de la vie qui est générale, qui n'est pas égocentrique et qui n'est pas non plus focalisée sur l'être humain. Ce n'est pas l'être humain au-delà et sa nature. On n'a pas un environnement. C'est incroyable de parler d'environnement alors que nous sommes intégrés à la nature.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Donc l'Ayurveda, c'est pas seulement une médecine, c'est aussi tout un schéma de pensée, toute une manière de vivre le quotidien, toute une manière d'appréhender la vie.
Inévitablement. Alors, on commence par où on en est. Moi, ce que je vois entre les gens que je reçois dans un cadre professionnel ou quand j'ai été étudiant en Ayurveda ou tout ça, on vient souvent à l'Ayurveda par le côté médical parce qu'on a des problèmes de santé. Voilà. Mais c'est un chemin parmi d'autres. Idéalement, l'Ayurveda, ça reste quand même une approche préventive de santé, mais pas uniquement de santé, de développement spirituel et personnel. Alors, on parle pas de religion. L'Ayurveda, c'est sans religion, même si c'est lié à l'hindouisme. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de dogme. Il n'y a pas « il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas manger de viande », etc. Ça, c'est une erreur, c'est une mauvaise interprétation de l'Ayurveda. On peut choisir d'être végétarien pour des raisons éthiques, spirituelles, économiques, politiques, ce qu'on veut. Mais c'est des choix personnels. Dès que ça devient dogmatique, on est hors de la logique de l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est un accueil de tout ce qui se passe. Quelqu'un qui est violent, il faut accueillir cette violence. Si on empêche la violence, c'est qu'on est contre la nature des choses. Et ça provoque, et d'être en confrontation avec quelqu'un qui pense pas comme nous, ça provoque la maladie chez nous. Voilà, donc le manque d'accueil va créer une maladie chez nous. Donc c'est à nous de créer un cercle vertueux.
On va rentrer dans cette deuxième partie de l'émission, dans quelque chose d'un petit peu plus concret. Je vais te demander déjà qui vient voir un praticien en Ayurveda, avec quel type de problématique, et après tu peux m'expliquer comment va se passer la séance.
Je pense qu'on attire les gens avec qui on a une affinité énergétique, ou en tout cas par rapport à ce qu'on peut proposer. Il n'y a pas de rencontres qui sont dues au hasard. C'est des questions qu'on se pose, mais en fait, on peut tout faire avec l'Ayurveda. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout soigner et que les gens vont être guéris. Mais moi, j'ai des gens qui ont des cancers et je peux m'occuper d'eux. Mais je n'ai aucune prétention de soigner leur cancer, de les guérir. Ce n'est pas du tout mon travail. Comprendre pourquoi ce cancer est venu. Je parle du cancer, ça peut être n'importe quoi d'autre, des polyarthrites ou n'importe quel genre de maladie. Moi, j'ai pas un rôle de médecin. Les gens qui viennent me voir, ils veulent aller mieux. Ils veulent comprendre d'où ça vient. Et si moi, j'ai des informations à leur donner au niveau de leur histoire, émotionnelle souvent, mon boulot, c'est peut-être de leur dire à quel endroit ils peuvent regarder et d'accueillir cette maladie et de les accompagner dans cet accueil de problèmes de santé pour voir ce que ça peut leur apprendre.
Là, tu parles t'as utilisé un mot important, l'émotion. Donc c'est vrai que l'émotion peut être un déclencheur sur différentes maladies qui vont se manifester dans le corps physique. Donc l'Ayurveda englobe cette partie émotionnelle de l'être.
Je me demande si c'est pas que ça, en fait. C'est même pas que ça l'englobe. Je crois que ça va même que là. Sans entrer trop dans le détail, on parle de trois forces d'énergie qui s'appellent sattva, rajas et tamas en Ayurveda. Sattva, c'est la clarté, c'est la pureté. Rajas, c'est le mouvement. Et tamas, c'est l'inertie. Et c'est une danse de tout ça. Et la violence, on est dans tamas, par exemple.
C'est vrai que quand on observe ce qui se passe autour de nous, tu disais, quand il y a le feu, on va chercher les pompiers pour l'éteindre. Donc c'est souvent quand la maladie est déclarée qu'on va s'occuper de son corps physique et on va prendre de l'allopathie pour pouvoir arrêter d'avoir mal au ventre, arrêter d'avoir mal à la tête, sans vraiment s'intéresser à la racine du mal et creuser un petit peu sur les différentes couches de cet oignon qu'est l'être humain pour voir un petit peu ce qui se passe en dessous. Et souvent, l'émotionnel est hyper important sur les maladies et les maux qu'on va développer. Donc l'Ayurveda l'englobe. Donc je te demandais qui c'est qui vient voir un praticien. Et je te demandais aussi comment va se passer une séance. Donc si tu peux nous raconter une séance. Donc on va prendre un patient lambda, tu vas, je sais pas, imaginer quelqu'un qui va venir avec telle ou telle problématique que tu vas nous exposer et nous décrire la séance.
Moi j'aime bien passer du temps, les gens m'appellent, j'aime bien passer au moins 5-10 minutes au téléphone avec les gens qui m'appellent pour écouter un peu ce qu'ils ont à me dire, c'est une problématique particulière, mais aussi pour voir un peu comment je me sens avec eux. Est-ce que je ressens des choses? Et 9 fois sur 10, si j'ai pas trop d'informations au niveau de mes ressentis, je vais leur proposer un premier rendez-vous, ça sera une consultation. Donc on va faire un bilan. On va faire un bilan de l'histoire, etc. Donc ensuite, je les reçois en consultation la plupart du temps. Donc là, les gens me parlent d'eux, de leurs problèmes de santé, s'ils ont un problème de santé. Et Bon, je l'avoue ici, ça m'arrive souvent de pas forcément écouter ce qu'ils disent. Mais je me mets vraiment avec eux. Et là, je suis presque en méditation. Même si j'ai une oreille qui traîne, hein, j'entends les mots, je les entends encore, mais j'essaie de voir un peu ce qui se passe. J'essaie de lire entre les lignes.
Donc quand tu dis ne pas écouter ce qu'ils disent, c'est vraiment plus être dans le ressenti finalement de la personne et de l'être en face de toi.
Exactement, exactement. J'essaie de pas trop mettre du mental. Et je vois s'il y a un problème physique. Et petit à petit, je me fais une synthèse. C'est un peu intellectuel, c'est un peu intuitif, c'est un peu plein de choses comme ça. J'essaie de pas trop réfléchir et je suis en attente de rien. La difficulté dans ce métier, c'est de pas se mettre des challenges. Donc peut-être au bout de 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, j'ai compris un peu, j'ai dégrossi un peu le truc et je vois un peu par quel biais on peut travailler. Est-ce que la personne a des mauvaises habitudes de vie? Je donne un exemple tout bête, une personne qui a des problèmes de sommeil, si elle boit 1 litre de café par jour, bon, ben là on va s'attaquer à la matière. Peut-être que cette personne a eu un problème quand elle avait 7 ans, mais ce qui compte c'est qu'elle dorme. Dans un premier temps, on ne pourra pas travailler si elle continue à mal dormir. Donc je pense que c'est un exemple que je prends de temps en temps, mais tant que la personne boit beaucoup de café, on pourra faire tout ce qu'on veut, des massages, tout, n'importe quoi. On ne pourra pas rétablir un sommeil cohérent. Donc on va travailler là-dessus, même si ça prend 6 mois. On va chercher à enlever le café. On fera jamais que ça. Faut comprendre pourquoi cette personne boit du café. Est-ce qu'elle est consciente qu'elle peut agir sur sa santé? Et mon travail de pédagogie, souvent, il est là. C'est que on part de très très loin dans notre culture. C'est que mon boulot, mon travail, c'est d'expliquer aux gens qu'ils peuvent prendre en charge leur santé. Voilà, par des choses très simples. Dans le sens où ils viennent me voir parce qu'ils me considèrent comme pas un docteur forcément, mais comme quelqu'un qui va les soigner. Bonjour, j'ai un problème de santé, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et moi, j'aurais envie de leur répondre, mais vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous? Et vous êtes beaucoup plus puissant que moi, je puisse l'être. Moi, je peux vous dire où regarder.
Donc c'est reprendre les rênes, en tout cas reprendre conscience de ce qu'est l'être et voir comment reprendre les rênes de soi-même.
Exactement, sur un plan physique, sur un plan émotionnel. La maladie, c'est la personne qui l'a créée. Et si elle a eu la force de créer une maladie, c'est qu'elle a la force de créer la santé.
Mais après, quand on parle de maladie, donc quelqu'un qui va se casser un bras ou une jambe ne viendra pas
Ouais.
te voir, quoi.
Non. Non, clairement, là, faut aller aux urgences. C'est l'exemple de l'incendie dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de lutte entre l'allopathie et l'ayurveda. On ne fait pas le même métier du tout.
On peut très bien aussi venir voir un praticien ayurvédique à titre préventif, alors.
L'idéal, ce serait que tout le monde vienne pour ça, mais dans les faits, ben, c'est plutôt une grande minorité. À ce propos, au niveau de qu'est-ce que c'est préventif et curatif, c'est une vraie question, parce qu'en Ayurveda, on détermine qu'on a 6 stades de déséquilibre. On ne parle pas de maladie forcément, et on a 6 stades de déséquilibre. Le premier, c'est à peine sensible. Je donnais l'exemple tout à l'heure, on a un peu froid, on met un pull. C'est-à-dire qu'on a un petit déséquilibre qui s'est créé, qui a manifesté un besoin. On a ressenti du froid, on a dit, ah, il faut que je m'habille. Ça, c'est le niveau 1. Si vous avez froid et que vous vous habillez pas parce que vous n'avez pas le temps de vous habiller, parce que machin, machin, là, on passe au niveau 2, etc. Niveau 3, c'est quand on a des symptômes avérés. On va avoir des frissons, on va avoir la peau sèche, on va avoir des petites douleurs, des trucs comme ça. Là, on est déjà au niveau 3 déséquilibre. Mais est-ce qu'on est malade? Non, on n'est pas malade. Et après, on a un niveau 4. Ça veut dire qu'il y a une maladie qui est déclarée. Alors, ça peut être un rhume. Ça peut être un cancer, quel que soit le degré de gravité, on est au niveau 4. Donc préventif, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'attaquer au niveau 1 ou au niveau 4? Et en allopathie, évidemment, on s'occupe du niveau 4, voire niveau 5 quand ça s'est délocalisé et que ça a créé un deuxième problème. Et qu'on ne voit même plus le rapport avec le problème principal. Il y a des gens qui sont constipés pendant toute leur vie, et ils ont un cancer du côlon à 50 ans, ou d'autres choses. Et on va pas traiter la constipation, alors que c'est la base de tout. Et la constipation, elle ne crée pas un cancer en 3 semaines, elle crée un cancer en 30 ans. Donc pour nous, en Ayurveda, une constipation chronique, on est déjà au niveau 3, presque 4. Donc, est-ce que... Voilà, c'est pour ça que la question qui est posée, elle est... Je veux la recadrer, c'est qu'est-ce qui est préventif? Et en fait, on est toujours en curatif, si on prend cette logique d'Ayurveda, c'est que... déjà de s'habiller quand on a un peu froid, on est déjà en curatif. Alors que si on s'habille avant d'avoir froid, on est en préventif. Et bien manger en fonction des saisons, en fonction de notre constitution, en fonction de tout ça, là on est dans le préventif.
On n'a pas parlé d'alimentation.
On n'a pas parlé d'alimentation, pourtant c'est un sujet hyper important en Ayurveda. L'alimentation, c'est l'apport des cinq éléments. Quand on mange, c'est pour permettre au corps d'avoir son apport des cinq éléments. Donc l'alimentation, c'est très simple en fait. On a besoin des cinq éléments, notre corps se renouvelle constamment. On a parlé d'Agni tout à l'heure. Agni, c'est le feu digestif qui permet de transformer tout ce qu'on mange en tissu. Quand Agni est équilibré, il va transformer ce qu'on mange en énergie, comme l'essence dans la voiture. En tissu, on sait très bien que nos cellules se renouvellent constamment. Et en matière d'élimination, voilà. Et donc la nourriture, si on apporte les bonnes proportions de chaque élément à notre corps, première chose, deuxième chose, que Agni est en mesure de le digérer correctement, alors on va rester en bonne santé. Voilà. J'insiste sur le deuxième point, c'est que si on mange quelque chose qu'on a besoin, mais que Agni est déséquilibré, alors là, on ne va pas le digérer, on va créer des toxines, on va créer des problèmes de santé. Donc, toutes les approches naturelles, diététiques, etc., parlent de nos besoins en apport de vitamines, de minéraux, de... On parle tout le temps de protéines, etc. En Ayurveda, on ne prend pas ça comme un premier point. Nous, on cherche à équilibrer nos cinq éléments. On cherche à avoir suffisamment de Agni, suffisamment de Jala, l'eau, suffisamment de Vayu, l'air, etc. À condition que Agni puisse tout digérer correctement. Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est qu'à nouveau, on peut intellectualiser l'alimentation. Est-ce que c'est mieux de manger des carottes ou des betteraves ou des navets, etc. Mais on tombe dans le piège d'augmenter le mouvement du mental. Alors qu'à nouveau, un enfant, s'il ne veut pas manger des épinards, ce n'est pas pour faire un caprice, c'est parce qu'il n'a pas besoin d'épinards à ce moment-là. Et un enfant, il a besoin de beaucoup de matières lourdes et nourrissantes. Donc c'est pour ça qu'il veut manger, il mange des pâtes, du blé, parce que c'est lourd, nourrissant.
Je veux bien que tu me parles du lait et des produits laitiers. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui sont faites où on se rend compte que c'est un lobbying qui nous impose plus ou moins de boire et de manger autant de fromage et de lait, et que le lait ne serait pas quelque chose de digeste pour le corps humain, alors qu'en Inde, la vache est sacrée et le lait fait partie de la base alimentaire du régime indien.
Tu as déjà commencé à répondre. Moi, j'ai étudié l'Ayurveda avec des profs occidentaux, donc c'était intéressant parce qu'ils ont déjà digéré. Ils ont un peu séparé l'Église de l'État, quoi. Ils ont un peu séparé l'Ayurveda logique, universelle, et la tradition indienne. Et c'est intéressant de faire la part des choses avec ça. C'est juste merveilleux.
La voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.